VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro. Dans quelques instants, Carrefour, science et santé. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Nouvelle attaque de Boko Haram au Tchad. Les insurgés islamistes ont pris pour cible une position de l'armée à Kaïga Ngouboua, près de la frontière avec le Nigeria. 11 soldats tchadiens ont été tués et 13 autres ont été blessés. L'armée affirme toutefois que l'ennemi a été mis en déroute. 37 combattants de Boko Haram auraient été tués et un important lot de matériel aurait été récupéré. Rappelons que l'armée tchadienne est engagée en première ligne dans une opération militaire régionale contre Boko Haram. En République du Congo, un référendum sur un projet de nouvelle constitution qui permettrait au chef de l'État de se représenter en 2016 divise. Les Congolais doivent se rendre aux urnes le 25 octobre selon un communiqué publié lundi soir par le gouvernement. Mais l'opposition promet de contrer cette démarche. Éric Manirakiza.
Le président Denis Sassou Nguesso se trompe d'époque. C'est la réaction de Pascal Tsatsi Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADS, premier parti d'opposition. Monsieur Mabiala s'est engagé à s'opposer jusqu'au bout au projet de référendum, estimant que le président Sassou veut tout simplement changer la constitution et se maintenir au pouvoir. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, FROCAD, fait bloc contre cette volonté du gouvernement de Brazzaville. L'autre formation membre du FROCAD, le Parti social-démocrate congolais, PSDC, demande le retrait de ce texte. Son leader, Clément Miarassa, a déclaré que ce projet ne repose sur aucune base juridique. Officiellement, la nouvelle constitution vise à faire évoluer les institutions du pays, mais elle offrirait plutôt au président Sassou au pouvoir depuis 30 ans un cumul de mandats illimités.
Conséquence du récent regain de violence en République centrafricaine, plus de 2000 personnes ont fui vers le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Les réfugiés sont arrivés dans la province de l'Équateur, bien que Kinshasa ait décrété le 28 septembre la fermeture de sa frontière avec la RCA. C'est ce que souligne le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU et le Programme alimentaire mondial. Au Burundi, des leaders de l'opposition et de la société civile rejettent ce qu'ils appellent une tentative du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'ethniciser la crise actuelle. Le gouvernement de Pierre Nkurunziza a ce week-end accusé l'Union européenne de ne viser dans ses actions qu'une seule ethnie. Pour Innocent Mouosi, directeur général de la radio-télévision Renaissance, cette tendance n'est pas nouvelle.
Vous savez, ce n'est pas le porte-parole qui essaie d'utiliser, il est porte-parole d'une organisation qui lui dit de dire ce qu'il a dit. Donc ce n'est pas tellement de lui qu'il s'agit. Il s'agit d'un choix d'orientation idéologique complètement désastreux qui a déjà montré à quel point il pouvait être catastrophique. Ça fait des mois et des années même que certains individus essaient de jouer à cela. Encore une fois, il faut différencier ce que certains essaient de faire de leur propre parti où il y a des gens qui sont totalement contre cela, qui sont intègres, qui sont des Burundais comme tous les autres, qui aspirent à la paix et à l'unité. Mais des groupes, ce courant-là existe bel et bien, nous le voyons depuis des années, et que ce courant essaie de s'imposer sans tout à fait réussir, et surtout d'imposer cela à tous les Burundais, mais sans vraiment réussir. Donc il y a une crainte à avoir qu'il ne faut pas laisser ces gens prédominer parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour tous les pays et pour eux-mêmes.
Innocent Mouosi, joint à Kigali. Génocide rwandais, la justice française a prononcé un non-lieu pour le prêtre Wenceslas Munyeshyaka. C'est ce qu'indique l'AFP. Il a été le premier Rwandais visé par une plainte en France pour le génocide de 1994, dont l'enquête avait pourtant relevé le rôle trouble de sa paroisse de Kigali. Une cérémonie symbolique de désarmement du régime de sécurité présidentielle RSP, auteur du putsch avorté du 17 septembre contre le régime de transition au Burkina Faso, a marqué la fin ce mardi de cette unité d'élite et ancienne garde prétorienne de l'ex-président Compaoré, Jacques Aristide.
Armes lourdes, canons anti-chars, fusils d'assaut, grenades ont été présentées sur l'emblématique place de la Nation, surnommée place de la Révolution par les Burkinabés. Le matériel militaire provenait du camp Naab à Koum 2, où s'étaient retranchés les putschistes du RSP et que l'armée loyaliste a pris d'assaut le 29 septembre. D'après l'AFP, plusieurs centaines de personnes venues assister à la cérémonie ont longuement applaudi le Premier ministre, le lieutenant-colonel Isaac Zida, et ont scandé des slogans contre le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré. Diendéré assassin ou Diendéré à la CPI, pouvait-on entendre. La présente cérémonie a pour but de marquer la fin du désarmement de l'ex-RSP, a déclaré le chef du gouvernement en présence de chefs d'état-major des armées de pays de la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le RSP était le bras armé du président Blaise Compaoré, lui-même chassé du pouvoir en octobre 2014. Avant même le coup d'État manqué du mois dernier, une large partie de la population réclamait le démantèlement de cette unité d'élite, alors que des élections présidentielles et législatives étaient prévues pour le 11 octobre au Burkina.
Mauritanie, la fièvre de la vallée du Rift a fait 4 morts depuis septembre, selon un nouveau bilan communiqué par le ministre mauritanien de la Santé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, l'Union européenne affirme avoir convenu avec les autorités turques d'intensifier leur coopération en vue de la relocalisation des réfugiés et migrants fuyant les conflits au Moyen-Orient. L'Union européenne aidera les patrouilles des gardes-côtes de la Turquie, selon un plan de crise discuté lundi à Bruxelles par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Entre-temps, en Méditerranée, le drame des migrants continue. La Norvège a repêché plus de 200 migrants ce mardi. Un sujet sur lequel on reviendra dans Le Monde aujourd'hui. Des F-16 de l'aviation turque ont été à nouveau harcelés par un MiG-29 non identifié à la frontière turco-syrienne. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui l'armée turque. Tatiana Mosso nous en dit plus.
Selon le communiqué de l'armée turque, le MiG-29 a allumé son radar pour identifier sa cible pendant 4 minutes et demie. Le texte fait état d'un autre harcèlement par une batterie de missiles solaires déployée en Syrie. Ces incidents surviennent après une série de violations de l'espace turc par des avions de combat russes le week-end dernier, ce qui a provoqué des tensions entre la Turquie, membre de l'OTAN, et Moscou, qui s'est impliquée militairement en Syrie. À Bruxelles, où il est en visite ce mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a exhorté la Russie à ne pas perdre l'amitié de la Turquie. La violation de l'espace aérien de la Turquie par 2 avions de combat russes ce week-end n'est pas un accident, a estimé aujourd'hui le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en réponse à Moscou, qui a évoqué de mauvaises conditions météo pour expliquer l'un de ces incidents.
Toutes les organisations caritatives ont quitté la ville de Kunduz en Afghanistan suite à un bombardement de l'aviation américaine qui a fait plusieurs morts dans un hôpital administré par Médecins sans frontières. Michel Joseph.
La frappe qui a démoli le centre hospitalier de MSF à Kunduz a eu un impact immédiat et dévastateur sur la population locale. Des milliers d'habitants ont fui et à peu près 8500 familles ont été déplacées dans la région du Nord-Est à cause des combats, selon OCHA, l'agence humanitaire des Nations Unies. La majeure partie de la ville est sans eau, sans électricité et les produits alimentaires se font rares. Jens Larke est un porte-parole de l'agence onusienne.
There is now no functioning.
Il n'y a aucun hôpital offrant des services de traumatologie dans la ville après ce bombardement. En fait, l'hôpital de Médecins sans frontières était l'unique établissement de ce genre dans toute la région, desservant quelque 300 000 habitants rien qu'à Kunduz. Donc, 300 000 personnes en sont maintenant privées, a dit le porte-parole.
L'attaque de samedi, qui a suscité de nombreuses réactions négatives, avait fait plus de 20 morts et des dizaines de blessés. Washington a annoncé une enquête, mais Médecins sans frontières réclame une investigation internationale impartiale.
Sachez enfin que le prix Nobel de physique a été décerné aujourd'hui à Takaki Kajita et Arthur MacDonald, un japonais et un canadien, pour leurs travaux sur le neutrino, une particule cosmique dont ils ont établi qu'elle avait une masse. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, c'était Morgane Guiriec. Tout de suite, Carrefour Science et Santé.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de